Deuxième cours.
Je vous rappelle que lorsqu'il s'agit de ces écrits et en gros de la métaphysique spécialement, nous sommes en face d'un problème d'interprétation qui est extrêmement difficile. Et il faut voir au moins les diverses possibilités. Je ne trancherai pas, je viendrai au terme. Je voudrais que vous puissiez vous-même, dans la mesure du possible, dans la mesure où on se plonge un peu dans Aristote, petit à petit, on arrive à pouvoir quand même comprendre un peu de l'intérieur, parce qu'en définitive, c'est une compréhension de l'intérieur. C'est une compréhension d'Aristote par lui-même qu'il faut donner. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Pas ce que les autres ont dit, ça n'a pas de problème. On pourrait faire ça, on pourrait faire l'histoire de l'aristotélisme et voir comment l'aristotélisme, au cours des âges, a pris des orientations très très différentes. Averroès, Avicenne, Thomas d'Aquin, Don Scott, Occam, vous voyez, uniquement ça. Tout cela sont aristotéliciens. Occam se dit aristotélicien et veut être aristotélicien. Mais les aristotéliciens sont tout à fait différents de Madama, tout à fait différents d'Avicenne, tout à fait différents d'Averroès. Et entre Averroès et Avicenne, il y a quand même quelque chose aussi très différent. Alors vous voyez qu'on voit, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les modernes reprenant Aristote trouvent des interprétations extrêmement différentes. C'est pas étonnant, ça a toujours été comme ça. Parce que de fait, on trouve dans Aristote comme une matière à penser. C'est dur, ça résiste. Alors ça exige constamment de revenir, et puis qu'on trouve, de fait dans la pensée d'Aristote, des passages qui à première vue peuvent sembler contradictoires, tout en même peut-être contradictoires, il s'agit de les expliquer. Alors, il faut essayer, je crois que c'est l'effort qu'on doit faire si on veut entrer un peu dans la pensée d'Aristote, c'est d'essayer d'expliquer par lui-même, en entrant dedans, qu'on entre par la force de la philosophie de la nature, qu'on entre par l'éthique, qu'on entre par la politique, qu'on entre par la phonétique, peu importe, le tout c'est d'entrer dedans. Et une fois qu'on est entré dedans, d'essayer de comprendre qu'on a affaire à quelqu'un qui, normalement, a un certain cheminement. Il y a un certain cheminement dans la pensée d'Aristote. Je crois qu'Aristote a cherché tout seul. Je ne crois pas du tout qu'Aristote considérait que c'était défini. Il a cherché toute sa vie et on voit bien que de fait, il considère qu'essentiellement, le problème philosophique consiste à découvrir les principes. La découverte d'un principe dans le sens d'Aristote est une découverte qui dépasse la définition. On ne peut pas définir un principe. Ça veut dire que de fait, l'intelligence humaine, quand elle découvre un principe, sait très bien qu'elle peut toujours le découvrir mieux. Vous ne pouvez jamais dire que vous possédez la connaissance d'un principe. Si je prends principe au sens aristotélique, si je prends cause au sens aristotélique, vous voyez, c'est la différence d'une philosophie qui part de définition ou une philosophie qui s'oriente vers la recherche des principes ou des causes. Le propre de la découverte d'un principe et d'une cause, c'est de quelque chose que nous pouvons toujours découvrir plus profondément. Parce que le principe et la cause, c'est quelque chose de premier. Donc si c'est quelque chose de premier du côté de l'être ou du côté de l'intelligibilité, c'est quelque chose qu'on peut découvrir toujours plus profondément, on peut toujours aller plus loin. Et si de fait la découverte des principes et des causes pour Aristote se fait par l'induction, la méthode inductive est une méthode tellement subtile, c'est vrai, très difficile, tellement qualitative si vous voulez, que de fait on voit très bien que nous pouvons toujours aller plus loin dans cette découverte. De sorte que je crois que quand on est un peu habitué à la pensée d'Aristote, on voit très bien que c'est la suite qui a comme solidifié, sclérosé la pensée d'Aristote. La pensée d'Aristote est une pensée constante de recherche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la découverte des principes qui sont quand même certaines déterminations. C'est pour ça que j'aimerais mieux dire qu'il y a comme des axes de pensée dans Aristote. C'est beaucoup plus des axes de pensée qu'un système. Un système, c'est toujours pour nous, c'est pas la pensée que c'est quelque chose d'arrêté. Je ne crois pas du tout. Je crois que la pensée d'Aristote est une recherche constante. Il y a un souci chez lui de ne jamais rejeter une réalité, un fait. Il faut toujours aller toujours l'intégrer d'une manière ou d'une autre et de pouvoir l'expliquer. Évidemment, il y a dans la pensée d'Aristote une pensée qui s'organise. Je crois qu'il y a une organisation, ce que veut dire une organisation, un organisme de pensée, un système. Parce que c'est le nous, pour lui, c'est ce qui est plus vital. Si le nous, c'est ce qui est plus vital, nécessairement le nous ne peut pas s'arrêter dans sa recherche. Donc il y a le problème de l'interprétation de la métaphysique, puisque nous regarderons la métaphysique. Et peut-être que c'est à l'égard de la métaphysique le problème de l'interprétation qui est le plus important et le plus intéressant, puisque c'est de fait le sommet de la pensée d'Aristote. Alors, première interprétation, une qui joue très très fort dans notre monde d'aujourd'hui, celle qu'a donnée Geiger. Celle qu'a donnée Geiger, c'est de dire qu'il faut découvrir dans la métaphysique d'Aristote des couches successives. Des couches successives, c'est-à-dire qu'il faut redécouvrir dans la pensée d'Aristote le premier Aristote, disciple de Platon, et découvrir le dernier Aristote qui s'est libéré de la pensée de Platon. Nous verrons à propos des différents livres comment de fait Geiger a donné l'ordre. C'est intéressant à regarder cela. Vous voyez que c'est une interprétation qui se fait à partir d'Aristote. Vous savez comment Geiger a fait cette découverte, c'est qu'il voit que de fait Aristote étant au début de la métaphysique parle de nous platoniciens, le nous. Donc Aristote se considère comme faisant partie de l'académie. Et alors, au terme, évidemment, le nous disparaît. Et il attaque Platon. Alors, évidemment, comment comprendre? C'est là un problème. Et puis, il y a des passages dans Aristote qui semblent évidemment beaucoup plus proches de Platon et des passages qui semblent beaucoup plus loin. Alors, on peut essayer de voir là, une évolution dans la pensée d'Aristote. Un premier Aristote aristotélicien, un second Aristote qui ne soit pas aristotélicien. C'est-à-dire un premier Aristote qui soit platonicien et un second Aristote qui ne soit plus platonicien, qui soit parfaitement lui-même. Vous avez la critique très forte qu'a fait mention par rapport au livre de Geiger en disant, faisons attention, Aristote cherche, et Aristote de fait a reçu beaucoup de Platon, mais Aristote ayant reçu beaucoup de Platon ne veut pas dire que très vite Aristote n'a pas eu sa pensée. Alors là, nous sommes aussi en face d'une position que je crois très importante à souligner, ce que mention souligne, en disant jamais aucun texte ne nous permet de dire qu'Aristote a accepté les formes idéales de Platon. Ça, c'est une chose qui, je crois, est très importante à souligner. Parce que si jamais Aristote n'a accepté les formes idéales de Platon, ça pose un problème. Quel est le platonisme d'Aristote? Vous voyez? Si au fond, par rapport à l'influence dominante de Platon, Aristote ne l'a pas accepté. Vous pouvez voir autre interprétation que donne Auban. Auban regarde le problème d'Aristote dans son dernier livre, au livre d'Auban. Regarde Aristote comme avant tout luttant contre les sophistes. Une position nouvelle, originale et intéressante sous ce point de vue-là. Aristote, c'est le philosophe de l'interrogation. C'est le philosophe de l'interrogation et qui, au fond, restait dans la perspective des apports. Aristote n'a rien compris. Donc, c'est diamétralement l'opposition de l'interprétation systématique d'Aristote. Aristote, c'est le philosophe des apports. C'est le philosophe beaucoup plus proche de Socrate contre les sophistes. Et ce que Aristote cherche avant tout en face des sophistes, c'est de découvrir la signification des termes, d'où le livre d'Aristote, et l'importance du livre d'Aristote. C'est qu'Aristote, en face des sophistes, essaie de nous faire comprendre que les termes ont une signification. Et sa philosophie va reposer là-dessus. Il y a quelque chose de juste. Je crois qu'en effet, la position des sophistes a joué un très grand rôle sur Platon et un très grand rôle sur Aristote. Et qu'on peut dire que d'une certaine manière, Aristote, au-delà de Platon, peut encore répondre aux sophistes. Et qu'Aristote a le souci de donner une signification aux termes. C'est vrai que le livre Pelton, qu'il soit intégré dans la métaphysique ou qu'il soit en dehors de la métaphysique, peu importe, le livre Delta a sûrement une très grande importance. Et nous verrons à propos justement des outils de signification de l'être. Troisième interprétation. Vous voyez, ces deux interprétations-là sont historiques. La troisième interprétation, qui est très importante à voir, sur laquelle Auban souligne, c'est l'interprétation qu'il appelle du Moyen-Âge. Et derrière le Moyen-Âge, c'est Saint Thomas. L'interprétation que donne Saint Thomas. Lisez, si vous en avez le courage, il faut faire, si on veut faire une critique, hein. Vous n'avez pas le droit de critiquer avant de faire la page, sans avoir lu. Donc, lisez le commentaire de Saint Thomas des Métaphysiques. C'est un très bon livre à lire. Bon, difficile, mais intéressant de voir la manière dont Saint Thomas commente Aristote. Saint Thomas, commentateur d'Aristote. Très à l'ordre du jour. C'est pas d'essayer de voir comment Saint Thomas commente. Eh bien, vous verrez que La manière dont Pythagore commente Aristote, c'est un comment, c'est une manière d'interpréter dans une analyse extrêmement poussée. On peut dire que c'est l'analyse du texte. Les vitraux de chat, c'est toujours pensé à ça. Vous voyez, les vitraux de Chagall et les vitraux de chat, ça fait penser à deux interprétations tout à fait différentes, oui, tout à fait différentes. C'est tout à fait autre chose. Eh bien, de fait, quand Saint-Thomas commente Aristote, il le commente phrase par phrase. Et il essaie, comme souci, d'essayer de voir l'unité. C'est ça que Provence ne veut pas accepter. Le souci de Saint-Thomas, c'est d'essayer de comprendre l'unité de la métaphysique. Alors que de fait, à partir de Jäger et avec Odin, on essaie de montrer que la métaphysique est un ensemble de livres juxtaposés les uns à côté des autres, mais qu'il ne faut surtout pas chercher d'unité dans la métaphysique. Oui, je ne vous donne que ces trois interprétations, parce que ce sont trois interprétations majeures. Parce que ce sont trois manières de regarder la chose. Alors, je crois qu'il faut nous poser la question, loyalement, y a-t-il une unité dans la métaphysique? Sommes-nous en présence de livres juxtaposés les uns à côté des autres? C'est ça que je voudrais que nous essayions de découvrir, en essayant de comprendre que chacun de ces livres, d'une certaine manière, a son unité. C'est vrai. Chacun des livres de la métaphysique a son unité. Et il faudrait pouvoir regarder chacun de ces livres en voyant la modalité particulière de chacun de ces livres. Et puis nous poser au terme, est-ce que de fait, il y a un fil conducteur? Malgré certaines choses qui peuvent paraître s'ajouter, il y a toujours cette question-là, vous savez bien. Il faut noter aussi cela. Enfin, les livres d'Aristote, je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout comme les dialogues de Platon. Pas du tout. Je crois que les livres d'Aristote n'ont pas écrit au sens fort. On a dit que c'était des notes de cours. Alors, vous voyez ce que ça peut être des notes de cours, hein? Pauvre professeur qui reste dans la tradition avec des notes de cours des étudiants. Vous voyez ce que ça peut être. Enfin, c'est assez quelque chose d'assez chaotique et d'assez. C'est peu intelligible, forcément, enfin, tout ça, c'est pas très bien. Vous savez qu'au moment d'examen, quand on regarde les notes de cours qu'on a pris pendant l'année, on n'y comprend rien du tout. C'est pour ça que les étudiants demandent un petit tour pour avoir quelque chose un petit peu plus continu et d'être plus sûr de saisir la pensée du professeur. Autrement, il n'aurait pas besoin. C'est très difficile. On a de la peine à comprendre. Déjà un cours, on a de la peine à comprendre. Alors, pour pouvoir prendre des notes avec pleine intelligibilité, il faudrait comprendre parfaitement. Or, on prend les notes successivement, et puis entre deux, il y a une distraction, entre deux, on dort un peu. Alors, vous voyez, c'est donc pas comme ça, de voir le lien entre les deux. C'est chaque fois, on va dire, attendez, arrêtez, je reprends, je ne comprends pas. Surtout dans une matière aussi difficile que la philosophie première. La philosophie première est une matière extrêmement difficile. Alors, sans aller jusqu'à des notes de cours, je crois que ce sont des notes. Aristote fait son cours, il note ces choses. Mais il ne rédige pas. C'est tout à fait autre chose. Écrire un livre ou tout simplement faire un cours. Aristote fait un cours, il est dans un état de recherche. Donc il n'écrit pas de dialogue. Et je crois qu'à ce moment-là, nous pouvons comprendre qu'il y a des notes qui s'ajoutent. Des chantiers de recherche. Et là, nous avons comme des chantiers différents. Et alors, dans ces chantiers différents, on a de fait des orientations multiples et diverses. Et il y a sûrement des choses qui représentent des pensées différentes. Je suis persuadé que dans la pensée d'Aristote, il y a quand même un progrès, une pénétration plus grande, sans dire évolution, ou si vous voulez évolution, peu importe le mot, tout dépend, ça dépend ce qu'on entend par évolution d'une pensée, n'est-ce pas? Mais il y a une pénétration plus grande dans la pensée d'Aristote, de la période d'Assos à la fin de l'année. Ça, c'est sûr. Ça ne peut pas être autrement. Regardez, en quelques années philosophiques, chacun d'entre nous, nous savons très bien qu'il y a une période, il y a une pénétration plus grande. Quand on prend des notes il y a quelques années, on les relit, on dit non, on dirait plus ça. Bon, de temps en temps, on a l'impression inverse, comme j'étais intelligent il y a quelques années. Mais normalement, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a quand même précisé certaines choses parce qu'on est dans un état de recherche permanent. On essaie de se pénétrer davantage. Alors je crois qu'il faut plutôt comprendre comme cela que de fait, il y a un état de recherche à travers les livres métaphysiques d'Aristote. Donc commençons, si vous voulez, cette étude. Nous l'avons déjà fait en partie l'année dernière. Je vous ai dit de se fermer, de reprendre, parce que je crois que c'est important d'avoir la vue d'ensemble. Je le fais pour tous ceux qui n'étaient pas l'année dernière, parce que ce ne serait pas très poli de commencer tout de suite par le quatrième livre, mais pas pour les autres, je leur demande, ils peuvent méditer toujours. Hein. Alors méditez, prenez pas ça, c'est pas la peine, elles sont parfaitement plus celles de l'année dernière. Méditez sur ce que représentent ces différents livres. Je vais aller très vite, hein, je ne veux pas faire une analyse communication. Mais je regarderai donc chacun des livres. Et chacun des livres en essayant de comprendre l'esprit de chacun de ces livres. Et je vous donnerai un petit fil conducteur à titre d'hypothèse. Le livre Grand A, je crois que c'est le livre d'une introduction. C'est le livre d'introduction. Et c'est le livre d'introduction qui va essayer de situer la grandeur de ce que représente la sagesse philosophie première, ou philosophie première sagesse. Alors là, nous sommes déjà devant deux termes très importants à noter. Qu'est-ce que c'est que la philosophie première? Qu'est-ce que c'est que la sagesse pour Aristote? C'est quand même toujours important de voir qu'Aristote s'enracine dans cette vision première de la philosophie, qui est une vision de sagesse. Et puis qui essaie de nous faire comprendre comment la pensée philosophique doit s'organiser autour des diverses causes et ce que les prédécesseurs ont regardé. Alors voilà, je vous résume ce qui me semble être l'essentiel du livre 30 ans. La grande phrase du début, c'est très important. Tous les hommes désirent naturellement savoir. Ça, je crois que c'est une phrase très importante. Ça nous fait comprendre l'importance de ce que représente la philosophie française. Tous les hommes désirent naturellement, tout à l'heure. C'est inscrit en nous. Il y a une nécessité. Nous dirions aujourd'hui, si vous voulez, les refoulements les plus terribles, ce sont les refoulements de la pensée. Donc, quand de fait l'intelligence humaine ne peut pas arriver à découvrir ce qu'elle désire découvrir, quand il y a des autorités trop fortes devant nous, des murs qui arrêtent, eh bien il y a des refoulements de la pensée qui sont permis. Tous les hommes désirent naturellement savoir. Et le signe de cela, c'est le plaisir que nous avons de voir. La vision nous donne de la joie. Quand nous regardons quelque chose, nous sommes contents de regarder quelque chose. Un beau coucher de soleil, un beau paysage, une belle physionomie, c'est quelque chose qui nous intéresse. Nous sommes contents de voir. Alors vous voyez, ça c'est très grec en même temps, hein, quand on regarde le théâtre grec et qu'on voit l'importance de la vision, la chose la plus terrible, c'est de devenir aveugle. Pour le grec, c'est la chose la plus terrible, c'est de perdre la vision. Alors on voit que Aristote résiste à cette partie, c'est le signe. Le signe, c'est l'appel à quelque chose que tout le monde pense. Tout ça, c'est le signe. Alors Aristote appelle à ce signe, tous disent qu'il y a un plaisir de la vision. Pourquoi Aristote dit-il ça? C'est pour nous faire comprendre que la connaissance et la connaissance intellectuelle possèdent en elles-mêmes leur propre finalité. Voilà la première chose qu'Aristote essaie d'établir au début du livre Grand Homme. C'est que la connaissance intellectuelle, la connaissance de nous, possède en elle-même sa propre fin, sa propre signification. Elle n'a pas besoin d'emprunter, si vous voulez, une finalité extrinsèque à elle. Ceci pour nous faire comprendre que la connaissance n'est pas seulement d'ordre utilitaire. Il y a un souci très net de nous faire comprendre que la connaissance dépasse le domaine de l'utilitaire. Et oui, il montre toujours cet appel à ceux qui recherchent la vérité pour elle-même, ceux qui recherchent la connaissance pour elle-même, sont plus considérés que ceux qui recherchent une fois choisie d'expérience. C'est dans ce début du livre Grand A où Aristote nous fait comprendre ce que c'est que l'empiria, l'expérience, et il montre la différence entre l'expérience et l'art. L'expérience et la science. En nous faisant comprendre que l'expérience est tout, tandis qu'au contraire, l'art et la science, c'est la découverte des principes. Dans cette vision, oui, essayer de comprendre comment la connaissance cherche à sa finalité en elle-même. La connaissance est recherchée pour elle-même. Ce qui nous fait comprendre que la sagesse sera la connaissance par excellence. Alors ici, encore une fois, position à l'égard de toute une tradition grecque. Le mot « sophia » a toute une signification grecque. Voyez ce que le fait suggère dans ses différents écrits sur la philosophie grecque et entre autres le bonheur. Celle qui se représente en grec nous dit sur la phronésie, la sophia. Et alors je crois qu'il y a là chez Aristote un souci de nous montrer comment la sagesse au sens fort est une science qui a pour objet certaines causes et certains principes. C'est là quelque chose de très important à voir. La différence de la sophia, de la sagesse, chez Aristote et chez Platon. Et il y a un parallèle qui est très important à faire. Quand vous regardez la manière dont Platon... il voit que le sage implique quantité de qualité qui ne relève pas de la personne. Et si le sage, ne s'inquiète pas ce que les autres pensent de lui. Il est une espèce d'indépendance très foncière. Le sage est au-delà de... Et il a en même temps ce caractère de magnanimité, de grandeur. Aristote, au contraire, ne regarde dans la sagesse que les qualités intellectuelles. Donc il y a là une position très nette chez Aristote comparativement à Platon. Je ne dis pas d'intellectualiser la sagesse, mais de montrer que le point de vue intellectuel dans toute sa pureté est sagesse. Et alors ça, de montrer comment la connaissance intellectuelle en elle-même possède sa propre sagesse. Il se pose cette question. Si la sagesse est une science qui a pour objet certaines causes et certains principes, quelles sont les causes que la sagesse doit regarder? Ça, c'est une question très importante. Si la sagesse est une science qui a pour objet certaines causes et certains principes, il faut savoir quelles sont ces causes et ces principes que considère la sagesse. Et il prend là une grande méthode inductive pour nous faire comprendre ce que représentent les causes et les principes que cherche la sagesse. On considère alors les jugements que l'on porte ordinairement sur la sagesse. Il nous donne 6 jugements. C'est à partir de là qu'il va préciser ce que représente ce contenu exact de la sagesse. Le sage est celui qui connaît toutes choses. Le sage est capable de connaître les choses les plus difficiles. Le sage est celui qui connaît les causes avec le plus d'exactitude. Le sage est celui qui est le plus capable de les enseigner. Le sage est celui qui choisit la sagesse pour elle-même. C'est la sagesse et une science qui est capable de régler les autres. Donc vous avez 4 propriétés du sage et 2 propriétés de la sagesse. Alors vous voyez, c'est vraiment net. Là, il a élagué. Quand vous regardez les descriptions que donne Platon du sage, vous voyez que Aristote élague et ne prend que les propriétés de la connaissance. Connaissant la plus universelle, l'extension, toujours, c'est ses premiers. Le sage, c'est qui connaît toutes choses. La connaissance dans sa compréhension, c'est quelque chose de difficile. La propriété, l'exactitude. La communication aux autres, c'est le point de vue de la fécondité. L'être plus parfait, c'est celui qui est capable de communiquer aux autres. Et puis alors, le point de vue de la sagesse comme telle, elle est choisie pour elle-même. Elle possède en elle-même sa propre finalité. Ou elle est capable de mener les autres. À partir de là, Aristote précise que la sagesse est la science des premiers principes. Puisque seuls les premiers principes et les premières causes permettent de comprendre cette extension et cette compréhension. La chose la plus universelle et en même temps la compréhension la plus grande. Et la plus grande exactitude, et en même temps la plus grande fécondité. Et d'autre part, il souligne, et ceci est important, surtout quand on voit le contexte de Platon par derrière, la sagesse regarde le bien. Il souligne ça tout de suite. La sagesse doit regarder le point de vue de la finalité. C'est le propre de la sagesse, parmi les causes, de regarder le bien. Puisque le bien, c'est la cause par excellence, puisque c'est la fin. Donc, toutes les causes, et les causes premières seront considérées par la sagesse. Et il souligne explicitement le point de vue. Vous voyez, ici, il ne parle pas de l'être. Il ne parle que des causes, et il parle du bien. Autre aspect qui est important à souligner, 982, c'est Aristote souligne le lien entre l'ami du mythe et l'ami de la sagesse. Le philo-moutos et le philosophos. Il y a un lien entre les deux. Il ne faut pas oublier ça, surtout quand on sait l'amour du mythe chez Platon. Eh bien, Aristote ne nie pas que le mythe a un intérêt très particulier pour le philosophe. Et vous savez pourquoi? Pour Arthur, c'est que pour lui, le poète est très proche du philosophe. Quand il dit que le poète est plus proche du philosophe que l'historien, je crois que c'est bien, dans la rhétorique, ce que représente le mythe, ce que représente la fable, on voit que ça relève du sens poétique pour Arthur. Et c'est pour ça qu'il nous dit que l'ami du mythe, le philomythos, est très proche du philosophe. L'ami du mythe et l'ami de la sagesse, il ne les identifie pas. Mais il considère qu'il y a une parenté entre les deux. Et en ce sens-là, il y a bien une continuité avec Platon. Évidemment, c'est dans les grands temps. On dirait, dans une perspective de Hegel, que c'est la perspective de Platon très proche de Platon. C'est pas vrai, il y a là un lien, il faut bien reconnaître. Alors, est-ce qu'Aristote, jusqu'à la fin de sa vie, nous dit-il que le philosophe est aussi l'ami du mythe? Ça, c'est une question à poser. D'autre part, Aristote souligne que la science qui est sagesse est plus qu'humaine. C'est la science la plus difficile. C'est aussi important à souligner. Pour lui, cette philosophie, cette science la plus universelle, cette sagesse, est plus humaine, elle est la plus divine. Parce que c'est celle que Dieu serait de préférence, puisque c'est la connaissance universelle des causes premières, des principes premiers. Et c'est celle des choses divines. Voyez 983, où il nous dit que Dieu est cause de toutes choses. C'est intéressant. Évidemment, ce n'est pas directement plus dans un point de vue philosophique, c'est plus lui dans l'opinion de tout le monde. Et c'est quand même intéressant qu'Aristote souligne là que Dieu est la cause de toutes choses. 983, c'est là où le fait souligne ce caractère de cette connaissance divine. Après nous avoir montré que cette connaissance première est sagesse, qu'elle regarde les causes premières et les principes premiers, au chapitre 3 de ce livre grand A, 983 à 23, il nous dit que cette science, parce qu'elle est science, doit rechercher cause. Alors ceci, c'est une affirmation constante dans la pensée d'Aristote, sur laquelle il faudra revenir plusieurs fois, parce que ça fait partie de l'interprétation d'Aristote en fait. Et c'est ce que Auban n'a peut-être pas assez souligné. Auban n'a pas vu assez cela. Aristote ne fait de souligner, ça c'est à l'intérieur, on ne peut pas nier, on ne peut pas dire que ça c'est un Aristote de première zone et qu'après Aristote l'a abandonné. On le retrouve jusqu'au bout, jusque dans le De Anima. Et le De Anima, tout le monde considère que le De Anima est un livre tout à fait dernier de la pensée d'Aristote. Aristote considère que le propre de la connaissance scientifique, c'est la recherche des causes. Donc, cette science qui est la science par excellence, qui est sagesse, ne peut être qu'une recherche des causes. Or, les causes se disent de quatre manières. Alors, si vous ne le dites pas, vous connaissez bien ce point de vue-là. Il faut arriver à comprendre ce qu'Aristote veut dire quand Aristote dit que les causes se disent de quatre manières. La cause matérielle, la cause formelle, c'est-à-dire la cause matérielle qui est la recherche de la matière, la cause du taux, du ciel, ou de la substance, ou de la fluidité, plutôt qui est ménage, la cause de l'origine et la cause de la fin, c'est en vue de quoi. De fait, tous les philosophes avant Aristote ont recherché les causes. Aristote dit ça. Donc c'est un jugement d'estimation qu'Aristote porte ses devanciers. Tous les philosophes avant lui ont recherché les causes. Aristote ne considère pas du tout que c'est une invention qui lui est propre de rechercher les causes. Il considère que c'est lui qui est le premier à préciser les quatre causes. Ça, il en donne plusieurs fois le témoignage. Avant lui, les philosophes ont cherché les causes sans très bien savoir ce qu'ils faisaient. C'est évidemment ce qui est ennuyé. Et que seul, il a bien recherché les quatre causes d'une façon précise et distincte. Et alors, c'est là où nous avons la grande vision historique, un jugement, jugement d'Aristote sur tous les philosophes qui l'ont précédé. Quelque chose d'extrêmement intéressant. Ceux qui s'intéressent à toute l'histoire de la philosophie avant Aristote, il y a là un aspect très intéressant, très original. On ne peut pas se passer là-dessus pour faire l'histoire, c'est très socratique, hein. Mais c'est intéressant de voir comment Aristote regarde ses devants. Aristote est quand même beaucoup plus proche d'eux que nous. n'est-ce pas, et la racine point de vue-là. Mais d'autre part, Aristote, étant donné qu'il a aussi une intention très directe, ne veut pas faire de l'histoire. Il fait de la philosophie. Et il fait de la sagesse. Il fait une philosophie première. Donc, ce qui l'intéresse dans les devanciers, c'est de voir dans quelle mesure les devanciers ont découvert les idées. Alors, il reconnaît que presque tous ont découvert la cause matérielle. Quelques-uns ont découvert la cause efficiente. Platon a eu le mérite énorme à la suite des pythagoriciens de découvrir la cause forte, mais il n'a pas parfaitement découvert. Et qu'au fond, son rôle, c'est de découvrir parfaitement la cause formelle et la cause finale. Il est intéressant de voir la fin du livre Grand A. La conclusion de ce livre est très intéressante. Je ne vous la dis pas, mais elle est intéressante. Ensuite, nous avons le livre Petit Alpha. Alors, un autre monde. Mettez-le à côté. Un autre monde. Du reste, on a dit que le livre Petit Alpha était mis à côté, mais en réalité, c'était tout à fait autre chose. On a considéré que le livre Petit Alpha était comme une introduction générale à toute la philosophie. Grand A représente une introduction propre à la philosophie première, à la sagesse. Tandis qu'au contraire, le livre Petit A est comme une introduction générale à toute la philosophie. On peut se poser la question. Je crois qu'on peut dire aussi que le livre Petit A est une introduction d'un autre livre que le livre Grand A. On sait très bien que les introductions, elles sont multiples. Bon, on peut faire, c'est ça. Quand vous avez fait une dissertation, quand vous faites une première introduction, puis quand vous avez terminé, vous revenez et faites une seconde introduction. La seconde est différente de la première. Avant tout, c'est comme ça, en faisant un premier chef, un chef, introduction. Quand on introduit un cours, on fait une introduction. Et puis l'introduction, ça change. Parce qu'on voit très bien qu'une introduction, elle n'est jamais adéquate, elle est différente. Alors on pourrait considérer le livre Petit Alpha comme une introduction critique. La première est une introduction historique, l'autre est une introduction critique. C'est tout à fait différent. C'est un aspect beaucoup plus critique. Et là, il y a un aspect beaucoup plus critique. C'est pour ça que ça nous gêne un petit peu qu'il y ait simplement introduction générale. Parce qu'il semble qu'une introduction générale est normalement moins critique qu'une introduction particulière à la métaphysique. Mais il faut dire. La théoria de la vérité, ça commence de cette manière. Vous verrez tout de suite. La théoria, la contemplation de la vérité et ce qu'il y a de plus difficile et en même temps c'est plus facile. Et c'est tout à fait une introduction pour dire que de fait la théoria de la vérité et la philosophie c'est la théoria de la vérité et la métaphysique pour Aristote c'est la théoria de la vérité, c'est la recherche de la vérité. Alors on peut dire à la fois que c'est plus difficile et que c'est plus facile. Pourquoi? C'est très simple. À la fois on ne l'atteint jamais adéquatement. Aristote est donc persuadé qu'on ne peut jamais dire qu'on a terminé la métaphysique. On ne peut jamais dire qu'on a terminé la philosophie. Vous voyez, là il le dit explicitement. Il dit explicitement qu'on ne peut jamais l'atteindre. Donc ceci, pour lui, c'est tout système. Hein. Vous voyez bien ce que je veux dire, on appelle le système justement être adéquat. Il le dit textuellement, on ne l'atteint jamais adéquatement. La vérité est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre adéquatement. Et cependant, on ne la manque jamais totalement. Autrement dit, l'intelligence recherche naturellement à connaître, et donc il y aura toujours, dans cette recherche de la vérité, il y aura quelque chose qui sera vrai. Même parmi les plus grandes erreurs, il y aura toujours quelque chose de vrai. On ne la manque jamais totalement. Donc c'est à la fois la théorie de la vérité, la recherche, la contemplation de la vérité, c'est à la fois la chose la plus difficile parce qu'on ne l'atteint jamais adéquatement, et en même temps la chose la plus facile parce qu'on ne la manque jamais totalement. Chaque philosophe, donc, peut dire quelque chose sur la folie. Alors c'est à cause de ce mot « folie » qu'on a dit que c'était l'introduction générale à la philosophie. Vous voyez ? C'est pas absolument ça. Le mot « folie » c'est là, alors on dit que c'est l'introduction générale à la philosophie. Aristote commence une introduction à la philosophie. Or, qu'est-ce qu'il y a à une introduction générale à la philosophie première ? Il a précisé ce que c'était que la folie. Il n'a pas encore précisé ce que c'était que l'oubliant. Le propre de la précision de la substance, c'est en philosophie première. Donc il se peut très bien, dans une introduction, il prenne des termes. C'est pas seulement sûr, vous voyez, c'est là où je crois. crois qu'il faut faire un petit peu attention à ce genre d'argumentation. Parce qu'on peut très bien dire que dans une introduction, vous faites appel à des choses qui sont déjà connues. Or, les choses déjà connues, normalement, avant de faire la philosophie première, on a fait la philosophie de la nature. Ayant fait la philosophie de la nature, on sait ce que c'est que la poésie. Et c'est pour ça qu'on peut dire, chaque philosophe peut dire quelque chose de la poésie. Il y a toujours atteint une partie de la vérité. Mais atteindre la vérité adéquatement, ça consiste à entrer dans la philosophie première. Aristote souligne la difficulté qu'il y a, parce que cette difficulté vient de la réalité, elle provient de nous. Double difficulté, de faire la philosophie et faire la philosophie première. Difficulté parce qu'on regarde les choses les plus difficiles, les difficultés à cause de nous. Et vous savez que la difficulté à cause de nous, Aristote la donne de cette manière, c'est qu'à l'égard des réalités qui sont les plus élevées, nous sommes une pauvre petite intelligence qui a très 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 peine à comprendre. Je vous lis ce texte. Il ne faut jamais oublier, 993b8. Peut-être aussi, comme il y a deux sortes de difficultés, la présente difficulté prend-elle sa source non dans les choses, mais dans nous-mêmes. L'aspect subjectif, quand il prend l'objectivité, les difficultés proviennent de la réalité, mais aussi en nous-mêmes. Ce que les yeux des chauves-souris sont en effet à l'éclat du jour, l'intelligence de notre âme l'est aussi aux choses qui sont de toutes les plus naturellement évidentes. Autrement dit, à l'égard des choses les plus évidentes, nous sommes comme des chauves-souris, à l'égard du soleil. Notre intelligence, en raison de son conditionnement, parce que c'est une intelligence qui est liée à la sensation, est une intelligence qui est peine énorme de s'élever aux réalités les plus intelligibles. Donc Aristote souligne ici le conditionnement humain à l'égard de la recherche de la vérité. Allez, à cause de ce conditionnement humain, notre intelligence est liée au corps. Notre intelligence étant liée au corps et liée aux choses sensibles, elle a une peine énorme de s'élever aux premiers intelligibles. Il est donc juste de nous montrer reconnaissant non seulement pour ceux dont on peut partager les opinions, mais aussi pour ceux qui ont exprimé les vues les plus superficielles. Mais ils ont fait quand même quelque chose. On peut s'écouter. Aristote, donc, fait là hommage, si vous voulez, à tous les philosophes qui ont quand même essayé de faire la philosophie. Même quand ils sont restés dans des perspectives extrêmement superficielles et qu'on ne peut pas être d'accord avec eux, ils ont quand même cherché quelque chose. Et dans la difficulté qu'il y a de connaître la réalité, c'est quand même quelque chose d'important. Aristote souligne ici que la philosophie est la science de la vérité. Donc là, il y a une définition nouvelle de la philosophie qui n'est pas donnée du tout dans le livre grand.